All I need is that beat.
Out in the street, they call it murder.
They wanna be hard rock, and they wanna be rap, and they wanna be R&B.
We represent hip hop. Stop that bullshit.
Stop, kill the R&B, quick. Stop, kill the rappers making me sick. Stop, naked hoes in the videos. Stop, the Gucci and the Fendi and the clothes. Stop, all you imitation fucking rappers. Stop, you niggas hit the fucking trapper. Stop, you're real fake, you're not real. Stop, let me express how I feel. Stop the madness, stop the danger. On the microphone, we your range. I'll get a better movement, no matter rhythm and a rock, better rhythm and a rinse it pop. I bring the lyrical text and paint the lyrical picture. So the rhythm and a rock, better rhythm, and then we bring the diction. You niggas is fiction, fake and not real. Try to claim you sell drugs, you rob and then you steal. Try to pose up like you're a fucking pimp or a Mac. The only thing you are is nigga whack. Hey, back off please, time to move. See, don't fall, me, I'm gonna represent. I'm in the groove on the track. Riding, rolling, rolling, riding, keeping it big. Represent positive, so stop all your fucking bullshit movies. Stop, your fucking vibe can't soothe me. Stop, there's no reality or no scripture. Stop, nigga, you can't paint a picture. Stop, try to put your fucking ice on. Stop, you can't drop lyrics with the bomb. Stop, your beat sounds popping R&B. Stop, you can't fuck with Jamal Ski. These niggas wanna rap, that's all they do. They don't represent hip-hop and have a clue. They roll around with managers and lawyers and advocates. It's a Mars on them all, I'm fed up with it. On the microphone, jump out, come. On the microphone, represent. Get a better move, hit jump out, represent the real element. The culture, the B-boy-ism, schism. It's the Mars, yeah, hip stepping and I'm ripping. Flipping, dipping to the highest max. It's the Mars, and double bass has got the tracks. It's fat, when we come, we bring the culture. Time to kill the fucking R&B fucking vulture. Corporations call the label, fuck us up and we're not stable. Sit up on the rhythm, represent, I'm on the cable. Flipping records, bringing vibes. It's some more key and double bass, we keep it live. Stop, stretching in your fucking videos. Stop, posing with your guns and your hoes. Stop, trying to prove you got a fucking bed. Stop, flashing up and trying to show me ends. Money means nothing, spirit is the key. Represent the third eye, set your body free. Yoga to Tai Chi, to relaxation, meditation, elevation. Represent that devotion. We bring the lyrical style and sit down, it's proper. See, don't want it rhythm, represent. No need to bring a helicopter from Jamaica in my video. Represent the underground and represent the flow. Lyrical text, lyrical picture. Get rid of move, I check the fiction. It's the monster, they can listen. Represent and listen, stop all that whack shit. It's just a freestyle from Double Bass and Jamal Ski, kids.
Le mix.
Luani festival style, make a thing gonna run wild like a moving child. Say your feels favor, we're dogging.
Georgiana View sur RFI.fr. Un podcast à savourer avec Georgiana View sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio.
Vous écoutez RFI, il est 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté par Anne Gantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une aujourd'hui, lundi 20 avril, la guerre au Moyen-Orient, toujours, et l'Iran qui met en doute le sérieux des États-Unis dans les négociations. Cela renforce encore l'incertitude sur ces discussions prévues sous médiation pakistanaise. Le vice-président américain est à Islamabad, mais le régime iranien n'a pas encore pris de décision. Il dénonce d'ailleurs des violations du cessez-le-feu en place depuis une dizaine de jours. Violation du cessez-le-feu aussi au Liban. Dénonciations israéliennes contre le Hezbollah et violations de la part d'Israël également, qui a officialisé sa présence dans toute une partie du Sud, la présentant comme une zone de défense avancée. Malgré les avertissements, malgré la présence israélienne et les destructions qui continuent, des milliers de personnes sont revenues dans le Sud ces derniers jours.
Sur le trajet, je disais à mon mari, est-ce que tu crois que la maison est toujours là ? Je regardais la clé en me demandant si la porte était encore debout. Et ici ça va, les murs sont seulement éraflés. C'est au deuxième étage que tout est détruit.
Reportage et analyse dans nos journaux, le premier commence dans un instant.
RFI.
Au sommaire également, le Premier ministre britannique qui se prépare à une prise de parole mouvementée devant les parlementaires. Keir Starmer va devoir une fois de plus s'expliquer sur Peter Mandelson, ancien ambassadeur à Washington, écarté à cause de ses liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. L'affaire fait scandale au Royaume-Uni parce que ce diplomate avait fait l'objet de rapports défavorables ignorés par le gouvernement. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé et les conséquences politiques possibles pour Keir Starmer avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Nous irons également en Haïti voir à quel point les écoles souffrent de la situation économique, de l'instabilité politique et de la violence. Beaucoup d'établissements sont dans un état absolument déplorable.
Étant donné que c'est une école qui n'a jamais été réhabilitée depuis sa construction, elle est vraiment dans un état critique. Les salles de classe n'ont plus de portes. Des habitants de la zone peuvent entrer dans la classe pendant que tu travailles. Parfois, tu arrives le matin et tu vois que des gens ont fait leurs besoins dans les salles de classe. Tu es donc obligé de tout nettoyer avant de commencer le cours. C'est donc très difficile.
Reportage à écouter juste après le journal de 13h, temps universel. Vous avez le programme. Bienvenue. Et pour commencer le journal, bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Incertitude totale donc à 48 heures de la fin du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.
Et oui, les négociateurs américains emmenés par J.D. Vance sont repartis à Islamabad. Ils sont attendus en soirée dans la capitale pakistanaise. Mais côté iranien, donc rien n'est encore décidé. Rien n'a été arrêté à ce sujet, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a mis en doute le sérieux des États-Unis dans le processus diplomatique. La situation est rendue encore plus compliquée par l'annonce hier de la saisie par la marine américaine d'un cargo iranien dans le golfe d'Oman. Téhéran a promis de riposter à, je cite, un acte de piraterie armée violent, le cessez-le-feu en cours. On l'a compris, ce deuxième cycle de pourparlers s'annonce encore très fragile, mais au Pakistan, on continue de se préparer. Nous retrouvons sur place Ondine de Gaulle.
Indépendamment des déclarations et des postures des uns et des autres, les autorités pakistanaises sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours et tout est prêt pour accueillir ces nouvelles discussions. La Red Zone, ce quartier ultra sécurisé où doivent se tenir les négociations, a été entièrement bouclé par l'armée et les deux principaux hôtels de la capitale ont été évacués pour héberger les délégations. Un dispositif de sécurité sans précédent a été déployé, près de 20 000 personnels mobilisés, de nombreux checkpoints installés, les transports publics suspendus et les entrées de la capitale strictement contrôlées. Mais Téhéran reste méfiant et soupçonne les États-Unis de préparer une attaque surprise sous couvert de négociations. Dans ce climat de forte défiance qui a déjà dégénéré en escalade armée dans le détroit d'Ormuz, le Pakistan entend jouer pleinement son rôle de médiateur à quelques heures de l'arrivée de la délégation américaine. Hier soir, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est longuement entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian avec un objectif clair, ramener les deux parties à la table des négociations alors que le cessez-le-feu doit expirer demain. Ondine de Gaulle, Islamabad, RFI.
Et conséquence de ce regain de tension au Moyen-Orient, la fébrilité et même l'inquiétude sont de retour sur les marchés financiers. Les bourses européennes ont ouvert en nette baisse, moins 1% à Paris. Et les cours du pétrole sont repartis à la hausse aux alentours de $95 le baril. Le transport aérien est en première ligne. Les compagnies craignent un rationnement du kérosène. En France, le gouvernement ne constate pas encore de difficultés pour l'approvisionnement en kérosène, mais se dit prêt à libérer une partie de ses stocks stratégique en cas de problème de volume. Cela étant, le pays le plus impacté en dehors du monde arabe, ce n'est pas la France, mais l'Inde. C'est le constat fait dans un rapport d'État par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Crise énergétique, exode des travailleurs et revendications ouvrières sur fond de violences politiques. L'Inde est sous forte pression. Sur place pour RFI, Abdoulaye Rali.
Les tensions au Proche-Orient se lisent dans le quotidien des Indiens. Pénurie de gaz, exode rural et ouvriers en colère. Ce choc révèle les failles du géant asiatique. Pour l'avocate Shazia Kidwai, qui défend les plus précaires, le pays paie le prix d'une mutation économique.
Avant, l'Inde pensait socialiste, mais maintenant, c'est un scénario capitaliste. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches plus riches. L'Inde est parfaite pour un État socialiste, pas pour un État capitaliste.
Derrière les violences ouvrières, la question des salaires reste centrale. Cette pression ravive le débat sur la solidité du modèle indien pour l'auteur et observateur Paran Joy. Le moteur économique peine à absorber la croissance démographique.
Not enough. Jobs are being created.
Il n'y a pas assez d'emplois qui sont créés pour les jeunes. Et les emplois créés ne sont pas suffisamment dignes. C'est un grand problème que l'Inde est en train de rencontrer.
India is currently facing.
Le PNUD estime que les tensions au Moyen-Orient pourraient faire basculer 2,5 millions d'Indiens supplémentaires dans la pauvreté. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
En Bulgarie, les urnes ont rendu leur verdict.
Les élections législatives organisées hier en Bulgarie ont été remportées par le parti de l'ancien président, le pro-russe Roumen Radev, à 45% des voix, ce qui le place en bonne voie pour décrocher 130 sièges sur les 240 que compte le Parlement. Ce scrutin pourrait mettre fin à l'instabilité politique qui dure depuis des années en Bulgarie. Et puis ce matin, le Kremlin a réagi. La Russie salue le souhait de Roumen Radev de dialoguer avec elle.
Et on y reviendra plus longuement dans quelques minutes, juste après. Après votre journal et la fabrique du monde.
Dans le conflit ukrainien, un mort côté russe. Un homme n'a pas survécu à une attaque de drone à Tuapse, ville russe des bords de la mer Noire. Ce port a été attaqué pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Sur fond de guerre en Ukraine, un sommet franco-polonais se tient aujourd'hui à Gdansk en présence des présidents Donald Tusk et Emmanuel Macron. Au menu de leurs travaux, plus de coopération franco-polonaise pour une Europe plus forte et plus souveraine face à la Russie et aux États-Unis. Gdansk, la ville de Lech-Walesa, symbolise les soubresauts européens du XXe siècle. Et puis le fonds souverain allemand met fin aux restrictions qui lui interdisaient jusqu'à présent d'investir dans des entreprises liées au secteur de la défense. Concrètement, ce fonds, connu sous le nom de Kenfo, pourra désormais acheter des actions et des obligations émises par des fabricants d'armement. Explication Myriam Berber.
Jusqu'à présent, le fonds souverain allemand, dont la valeur est de 25,5 milliards d'euros, ne pouvait pas investir dans des entreprises qui génèrent plus de 5% de leurs revenus provenant d'activités liées à la défense. Depuis sa création en 2017, ce fonds est en effet chargé d'investir dans des activités durables, notamment le financement du traitement des déchets radioactifs venant des centrales nucléaires mises hors service il y a quelques années. Avec le conflit en Ukraine et la position des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, l'Union européenne a appelé à un réarmement dans la région. Face à cette nouvelle situation sécuritaire, le fonds souverain a donc décidé de changer de politique. Au moment où l'Allemagne réinvestit dans sa défense, c'est une question de cohérence, explique la direction du fonds, qui rappelle que les bénéficiaires seront principalement des entreprises de défense basées dans l'UE, notamment au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse.
Myriam Herbert du service économie. La Terre a tremblé ce matin au nord du Japon, dans les eaux du Pacifique. Un violent séisme de magnitude 7,5. Les secousses ont été si violentes qu'elles ont fait trembler de grands immeubles jusqu'à Tokyo, à des centaines de kilomètres de là. Le Japon émet une alerte de puissant séisme pour le nord du pays. La Chine voit d'un très mauvais œil les exercices militaires annuels lancés aux Philippines avec l'armée américaine et pour la première fois avec aussi un contingent japonais. sécurité. Pékin accuse ces pays de jouer avec le feu. La suite de la visite du pape en Angola, après Luanda, Léon XIV est aujourd'hui à Sorimo, dans l'est, à plus de 800 kilomètres de la capitale, dans une région enclavée et historiquement marginalisée. Léon doit célébrer une messe en plein air devant 30 000 fidèles.
Toujours sur le continent africain, la suite de notre série de reportages au Soudan, entré il y a quelques jours dans sa quatrième année de guerre.
Oui, c'est à Khartoum en avril 2023 que les combats ont éclaté entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Après avoir occupé la ville pendant 2 ans, les FSR ont été chassés et peu à peu, les déplacés sont de retour chez eux, mais pour découvrir plus souvent des maisons dévastées. C'est le cas entre autres à Touti, petite île à la croisée des deux Nils au cœur de Khartoum. Touti où s'est rendu Gaël Lalex.
Khalid Ahmed est l'imam de Touti. Il a été fait prisonnier par les FSR pour s'être opposé à leur loi brutale. 6 mois plus tard, à son retour chez lui, il découvre l'ampleur du désastre.
Quand on est rentré, tous les livres étaient là, éparpillés par terre, les meubles détruits, le climatiseur démonté. Ils pensaient qu'on cachait quelque chose dedans. Ça nous a pris plus d'une semaine juste pour nettoyer la maison.
Touti a été coupé du monde pendant près de 2 ans. Les FSR contrôlaient les ponts et les bateaux et les miliciens réquisitionnaient les maisons, comme celle de Jawal Mohamed Ali.
Les FSR sont restés chez moi 2 ou 3 semaines, mais je n'ai pas encore réemménagé parce que c'est inhabitable. Ils ont même cassé les murs. Il n'y a plus de fenêtres, de portes. Je ne connais même pas encore l'étendue de tous les dégâts.
Assis sur une chaise cassée, une cagette de tomates devant lui, Ahmad Aldine Raoujali attend les clients. Il a perdu tous ses biens et sa famille manque aujourd'hui de tout.
Je vends ces quelques fruits pour gagner un peu d'argent pour faire vivre ma famille. Je gagne entre 4 000 et 5 000 livres soudanaises par jour, environ 2 euros. Avec ça, je peux acheter du pain et des falafels pour mes enfants.
Avant la guerre, Touti dénombrait plus de 4 000 habitants. Ils ne sont plus que quelques centaines aujourd'hui. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Le Soudan entré dans sa quatrième année de guerre. À suivre le dossier sur RFI, notamment sur le site RFI.fr. En France, le syndicat Force Ouvrière ouvre son 26e congrès à Dijon. L'organisation dirigée par Frédéric Souillot est la 3e organisation syndicale en France. Ce matin, les délégués ont accueilli, sous des applaudissements nourris, Cécile Kohler et Jacques Paris, ces 2 militants et ex-détenus en Iran. Enfin, résultat de football, Lyon est remonté sur le podium de la Ligue 1 en faisant chuter hier soir le Paris Saint-Germain au Parc des Princes 2-1. L'OL qui se prend à rêver de la Ligue des Champions. 13h12 ici à Paris. Bonne journée. Je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Merci, Gilles.
Alerte orange.
Radio HDR.
Attention, il approche.
Radio HDR.
Contact imminent.
Radio HDR.
Contact imminent.
Le mix des cultures.
Le mix,
c'est sur le 99.1 FM.
Le 99.1 FM.
Sur le 99.1 FM.
Alerte orange terminée.
Control, she puts on control, she feels strong.
Bye. dans la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette quatrième émission en Gascogne, on l'a vu la semaine dernière, on a parlé de cette maison de la nature et de l'environnement au bord de ce lac, lac de Puy-d'Arieux. On est vraiment à la limite ici des Hautes-Pyrénées, du Gers, la Haute-Garonne n'est pas très loin non plus. On est vraiment dans un secteur très rural. Et il y a un pôle que je voulais absolument voir et pousser un peu plus dans cette maison de la nature et de l'environnement parce que je trouve que c'est une initiative intéressante, que c'est vraiment plus que c'est de l'écologie en action, c'est des choses simples, ça se veut humble, il n'y a pas de grand discours, on n'en entend pas trop parler. Et c'est ça qu'on aime à l'ours et la carotte, c'est ces choses, ces initiatives dont on n'entend pas forcément parler, mais qu'il faut avancer les choses. C'est le pôle arbres et paysages de cette maison de la nature et de l'environnement, ici à Puy-d'Arieux. Et pour en parler, j'ai envie de vous présenter Anaïs Coutier. Bonjour.
Bonjour.
Alors toi Anaïs, tu es la référence technique de ce pôle arbres et paysages. En quoi consiste ce pôle arbres et paysages ?
Ce pôle arbres et paysages a pour mission de sensibiliser à l'arborforêt.
L'arborforêt, déjà ça j'ai jamais entendu parler.
Voilà, et ben, c'est différents types d'arbres qu'on va pas trouver dans le milieu forestier. Donc c'est par exemple les arbres en ville, les arbres dans les champs, les arbres intraparcellaires, les haies champêtres en font partie. Voilà, c'est tous ces arbres-là, les arbres remarquables urbains, oui, tous ces arbres-là en général.
Alors votre rôle, vous, c'est quoi c'est de faire quoi avec ces arbres ?
Alors nous, on a plusieurs rôles, c'est de sensibiliser à l'importance de ces arbres parce qu'ils ont beaucoup de rôles qu'on a tendance à oublier mais qu'avant ils étaient beaucoup mis en avant. Donc c'est vraiment de sensibiliser à ça à travers plein d'actions. Donc on va accompagner à la replantation de haies champêtres sur tout le territoire des Hautes-Pyrénées, mais aussi à la gestion durable, aux essences locales. Vraiment, on essaye de remettre en avant ces arbres pour marquer nos territoires. Et vraiment bénéficier de cette richesse qui est naturellement présente sur le territoire.
Alors c'est quoi cette richesse ? Pourquoi est-il important de sauver, replanter des arbres ? Alors c'est au bord des champs, c'est un peu partout ?
Alors nous, oui, on va accompagner vraiment tout projet de plantation. Donc tant que c'est des essences locales, parce que du coup, c'est celles qui vont être adaptées à notre faune et à notre climat, mais aussi au réchauffement climatique qui se passe actuellement. Et les replanter, c'est très important. Vraiment, maintenant, on peut choisir la zone où on va les mettre. Donc il peut avoir des impacts face, par exemple, aux coulées de boue qu'on peut avoir le long des fossés. Donc,
alors, les coulées de boue, c'est l'érosion que procurent les champs avec le labour quand il y a des grandes pluies, des épisodes un peu brusques, comme il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, on voit la terre qui part dans la rivière.
Exactement, c'est ça. C'est soit à cause du labour, soit à cause de la terre nue. Mais voilà, replanter une haie, par exemple, sur talus, juste en bordure, permettra de ne pas perdre ce potentiel qui est le sol, qui est un potentiel qui est très très lent à se former. Et du coup, le retenir sur la culture et donc favoriser le type de sol et la culture par la suite, avec